Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Pour commencer tout d'abord ce premier entretien, je vais m'empresser de saluer Vincent Delphy. Bonjour Vincent Delphy.
Bonjour Nathalie.
Auteur de ce livre, un livre de 672 pages avec près de 108 chapitres, c'est énorme. Ce sont des années de travail, des nuits blanches peut-être.
Peut-être, oui.
On vérifie ses sources.
Oui.
Et vous donnez, sûr, oui. C'est précieux, ce livre est précieux. Je rappelle que nous sommes à quelques jours de ce temps de Noël, temps où on fait mémoire de la naissance de Jésus, ce grand mystère de l'incarnation. On parle de mystère avec la naissance de Jésus et on parle aussi dans le titre de votre ouvrage, Jésus, des mystères de la Bible, autant de confusion, un livre clé pour notre temps. Alors des mystères dans la Bible, ils sont nombreux, vous avez étudié, moi je vais donner juste mon travail aujourd'hui et toute la semaine dans cette série des clés pour vivre, c'est de donner peut-être le goût de la lecture, d'aller peut-être beaucoup plus loin. Nous, on survole cette semaine dans ces émissions de radio et moi j'invite vraiment à peut-être offrir en cadeau cet ouvrage paru aux éditions Via Régis ABH. Ces émissions sont en podcast, on peut donc les réécouter ou appeler au 07 70 31 51, 62. Je vous laisse la parole et je voudrais surtout revenir avec vous. C'était votre souhait. C'est important sur ces paroles que beaucoup d'auditeurs doivent connaître. Au commencement était le Verbe. Et c'est de Saint Jean. Là, je vous vois sourire. C'était incontournable pour vous d'aborder, de travailler sur...
Oui, c'est vrai. Nous avons parlé de beaucoup de sujets jusqu'à présent dans les autres émissions. Mais... voilà, c'est le premier mot de la Bible. On est étonné que Saint Jean l'ait repris au départ de son évangile. Ce mot, effectivement, cache un mystère. Il fait partie des mystères de la Bible, il y en a d'autres qui sont traités, mais celui-là est capital parce qu'il détermine toute la révélation, c'est-à-dire toute l'alliance jusqu'à l'incarnation de Jésus. Donc, vous savez que les manuscrits, enfin les papyrus aussi, étaient des rouleaux. Et donc, l'écriture hébraïque ancienne, il n'y avait pas les points de vocalisation qu'on a dû rajouter par la suite. Donc, il y a 22 consonnes, et on a rajouté des points, voyelles, de manière, ou des points, ou des petits signes, des points. C'est après la venue de Jésus que ça s'est fait. On s'est servi d'ailleurs de la version des Septante, qui était en grec, lorsque les Hébreux eux-mêmes ont perdu leur langue et qu'ils ont adopté la langue grecque surtout, puisque les évangiles ont été écrits en grec. Donc on doit d'ailleurs comparer, quand on travaillait sur les évangiles, toujours avec, pour ce qui est des références de la Bible, bien sûr, la version grecque des Septante et comparer bien sûr l'hébreu. Donc le premier mot en hébreu, vous savez que les kabbalistes, il y a eu tout un mouvement qui est d'ailleurs fondé, hein, bien entendu, étant donné qu'il n'y a pas ces points de vocalisation, ces signes de vocalisation qui ont été rajoutés pour empêcher justement les digressions et les mauvaises lectures, bien on pouvait lire différemment les mots. Or, le premier mot, et qui est unique dans la Bible, ce que dit Rashi, qui est un grand talmudiste, un illustre rabbin du Moyen-Âge, du XIIe siècle, Rashi lui-même s'aperçoit que ce mot est unique. Il est toujours suivi, habituellement, comme dans Jérémie, d'un complément de nom. Au commencement du règne de, au commencement de ceci, voilà. Non, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, etc. Bon, au commencement, alors, Bereshit en hébreu, qui peut se lire en deux mots, Bet Resh, qu'on peut lire Bar, un fils, Ashit, c'est-à-dire Aleph, Shin, Yod, Taf, qui est le futur à la première personne du verbe donné. Shi, c'est le don, Shit, c'est le verbe, Ashit, c'est je donnerai. Un fils, je donnerai. Vous savez déjà saisi l'importance de ce mot qui annonce et qui va éclairer toute la révélation. Je vais revenir là-dessus, mais il y a quelque chose de frappant chez Saint Jean déjà, l'apôtre bien-aimé. Au commencement était le verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? Non? Pourquoi Saint Jean commence-t-il par « au commencement était le Verbe » alors que logiquement nous nous dirions « au commencement était Dieu » et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Non, c'est bien « au commencement était le Verbe ». Et vous verrez qu'un peu plus loin, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils » dans Jean. Mais je vais y revenir plus loin. Nous trouvons cette construction « Bereshit », c'est-à-dire « Bar Hashit » un peu plus loin dans la Genèse, et ça va être lié encore, c'est quand Dieu, après le péché, s'adresse à Satan et qu'il lui dit, en parlant de la femme, une hostilité je donnerai, une hostilité je mettrai, une inimitié je mettrai entre toi et la femme, tu la viseras au talon, elle t'écrasera la tête. Oui, Satan était le plus rusé des animaux. Comme il est dit, il a été condamné à ramper sur la terre. C'est-à-dire, le serpent n'est plus qu'une tête, en fait, l'orgueil. Et l'humilité de la femme qu'il écrase de son talon, le talon c'est l'humilité, l'humus c'est la terre, hein, l'humilité, voilà. C'est par l'humilité que cette femme va écraser le talon. Ce qui nous ramène, bien sûr, au chapitre d'Apocalypse, etc., chapitre 12. Voilà, vous avez déjà saisi la référence qu'il y a dans cette construction unique, avec le même verbe dans la Genèse. Mais en même temps, le même nom, Bar, fils, a deux autres significations capitales qu'on va retrouver dans l'évangile de Jean, c'est grain et blé. Or, dans ce fameux grand discours d'adieu de Jésus à ses disciples, que dit-il? Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut produire du fruit. Il a parlé, bien sûr, dans la langue, puisque Bar a été repris aussi en araméen, c'est à la fois, on le trouve dans la Bible, on le trouve en araméen, bien entendu.
Donc l'araméen, langue de Jésus.
Langue de Jésus, oui, bien sûr, langue populaire. Mais quand il explique en synagogue, c'est l'hébreu, là, bien entendu. Et donc, il faut que le grain de blé tombe en terre et meure pour produire du fruit. Donc c'est le Fils qui est tombé en terre et qui a donné du fruit. Il a fallu passer par la mort. Donc,
au fond, il a fallu passer par la croix.
Et par la croix,
ce
bien entendu.
Ce mystère de la souffrance, ce mystère autour de la crucifixion.
C'est tout l'enseignement de Jésus. S'il n'y a pas là, au bout du terme de sa vie, la croix, ben c'est, le Christ est réduit à un simple philosophe dont on extrait les phrases. S'il y a une belle phrase qu'on peut dire, aimez-vous les uns les autres. Et oui, mais il l'a prouvé. Aimez-vous les uns les autres, il est allé jusqu'au bout.
Donc cet amour ne peut passer sans la croix.
Mais il n'y a pas d'amour sans sacrifice, hein. Ça c'est certain.
Là vous ouvrez aussi toute la question aussi pour notre temps, dans ces temps troublés, ces temps d'épreuve, la question aussi du martyr.
Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le mystère même de la souffrance qui fait que beaucoup d'ailleurs d'orientaux qui se sont convertis, comme François Cheng, l'académicien, ou Jean Moutapa, qui est son éditeur, l'un d'origine chinoise, l'autre indienne, donc qui connaissent très très bien l'Orient. Et justement, ceux-là ont très bien compris qu'il n'y a que le christianisme qui prend en compte la souffrance réellement. On pourrait parler du bouddhisme.
C'est oui, vous en parlez, alors je me permets, la question de l'islam, du bouddhisme, vous l'évoquez dans cet ouvrage, et moi j'invite les auditeurs à devenir vraiment des lecteurs, car vous donnez aussi les sources, voilà. Donc au fond, c'est un livre pour se former.
C'est un livre, je crois, de réflexion pour l'incroyant, comme pour le croyant aussi, oui. Un livre de fortification aussi, sans doute, je l'espère du moins, oui.
De fortification. Pour avoir des bases, au fond, plus solides.
Vous savez, des bases, je pense que quand on parle de base, on parle d'une sorte d'enseignement technique. C'est retrouver la spontanéité de l'amour qui est finalement l'explication.
C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de spontanéité de l'amour. Il n'y a plus de spontanéité de l'amour.
Ben c'est un peu ce qu'on pourrait remarquer aujourd'hui, que ce qu'on appelle amour, d'abord on dissocie l'acte du sentiment aujourd'hui, hein, et donc ça donne toutes les dérives que vous savez, y compris dans les lois qui sont prises. De bioéthique, c'est terrible. Ce qu'on voit, non, mais on peut appeler ça de l'amour, ça n'est pas l'amour. L'amour, c'est ce qui est, ben oui, c'est un idéal, on l'a nous, on le porte tous cet idéal. Et d'ailleurs, il est important pour ceux qui parlent de tolérance, et qui finalement voudrait supprimer cette vision du couple. Oui, mais c'est justement, il faut que ce... C'est parce que la norme est forte qu'elle peut se permettre d'englober des tas de divergences, voyez. Mais il y a toujours au fond de l'être humain cet absolu de l'amour qui est incarné finalement dans la mystique du couple, oui, bien
donc
sûr.
Dans le mystère aussi, la vocation de l'homme et de la femme, et vous en parlez
bien entendu.
En fait, vous parlez de tous les sujets dans cet ouvrage, hein, Vincent
Delphi. Mais parce qu'ils sont liés par l'amour et que l'amour est spontané. Voilà, l'amour est une... Et c'est peut-être ce que l'Occident a perdu aujourd'hui.
Donc, à retrouver. Donc, à retravailler. Vincent Delphi, l'invité encore demain dans cette série intitulée, c'est le titre de votre livre, Jésus des mystères de la Bible, autant de confusion. Eh bien, je confirme, vraiment un livre clé pour cette période de troubles et de grandes confusions. Un livre que l'on peut donc se procurer aux éditions Via Regis ABH. Vous pouvez appeler donc les éditions 07 70 31 51 et 62. Je rappelle que chacune de ces émissions sont en podcast sur le site de notre radio. Vincent Delphi, à demain, à la même heure.
Oui, merci. Au revoir, Nathalie.